Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Hodiot. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا
إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم صدق الله العلي العظيم.
Par les jeunes juments coureuses qui allaitent, puis qui font jaillir des étincelles comme d'un briquet, puis qui attaquent au matin, puis qui font ainsi voler la poussière, puis qui en enveloppent un groupe. Certes, oui, l'homme est ingrat envers son Seigneur. Certes, oui, et pourtant, il est de cela témoin. Certes, oui, et il est fort en l'amour des richesses. Ne sait-il donc pas que lorsque sera bouleversé ce qui est dans les tombes et que sera acquis ce qui est dans les poitrines, ce jour-là, certes oui, leur Seigneur sera bien informé d'eux.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Très chers amis auditeurs, merci d'être avec nous en ce lundi 8 février 2021. Nous allons vous présenter dans quelques instants le journal, suivi d'un commentaire politique. Nous vous proposerons ensuite la seconde partie de cette émission. Restez avec nous. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé que le peuple iranien est déterminé à surmonter les sanctions et répondre à ses besoins. Des militaires syriens et russes ont été pris pour cible par les roquettes des terroristes à Idlib. Un conseiller militaire russe et 7 militaires syriens ont été tués et plusieurs autres blessés. Et au Soudan, le premier ministre annonce la décision de dissoudre le gouvernement. C'était le titre. En voici le journal. Le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique a affirmé que le peuple iranien est déterminé à surmonter les sanctions et répondre à ses besoins. Le général de division Hossein Salami, commandant en chef du CGRI, a déclaré dimanche matin au Festival virtuel des sciences et des technologies et l'exposition des réalisations scientifiques et technologiques du Basij Force Populaire. Malgré les besoins du pays pour progresser, il existe heureusement de bons potentiels dans le pays. Les ennemis tentent de bloquer toutes les voies du progrès à notre nation. Pourtant, avec les efforts d'une jeunesse intelligente et travailleuse qui mène des efforts scientifiques et technologiques, nous voyons aujourd'hui que bon nombre de produits que nous devrions importer auparavant et qui nous rendaient dépendants d'autres pays sont produits par nos jeunes scientifiques. Notre nation s'oriente vers le progrès et nous essayons de nous épargner de toute dépendance, malgré avoir causé certains problèmes et pressions à un moment donné. Les sanctions sont devenues aujourd'hui l'une des opportunités historiques pour la nation iranienne, a souligné le commandant en chef du CGRI. Le général Salami a également souligné. Aujourd'hui, les sanctions ont créé une opportunité de stimuler les motivations, les croyances et les convictions du peuple. Et dans le vrai sens du terme, cette situation a conduit la société à faire un effort pour répondre à ses besoins. Il a également ajouté « Nous ne pouvons pas rester dépendants d'autres pays. Notre situation est différente car nous sommes soumis à des sanctions mondiales et aucune partie n'est en mesure d'aider notre pays à devenir autonome. » Nous ne pouvons pas attendre l'aide des autres. Notre peuple et nos jeunes ont appris à se fier à leur propre esprit et à se tenir debout pour enterrer les souhaits des ennemis. Plus tôt le 19 janvier, le général de division Hossein Salami avait déclaré que l'Iran ne voyait plus la nécessité du plan global d'action conjoint ou accord de 2015 sur le nucléaire iranien. Dans une autre partie de son discours, évoquant les sanctions globales contre l'Iran, le général Salami a déclaré l'ennemi a lancé une guerre économique et une pression maximale contre notre pays et n'a épargné aucun effort dans ce sens. Mais notre nation a pu créer un pouvoir qui a marginalisé les efforts de l'ennemi. La pression maximale n'était pas un slogan, mais une stratégie. La nation iranienne a réduit l'impact des sanctions et c'est que l'ennemi ne lèvera jamais les sanctions à moins que notre nation n'en réduise les impacts. L'assistant principal du ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques spéciales, Ali Asrar Khaji, et l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, Martin Griffiths, se sont entretenus dimanche 7 février à Téhéran. La capitale iranienne a rapporté l'agence de presse officielle IRNA. Lors de la réunion, ils ont discuté de la crise au Yémen. M. Khaji a évoqué la situation difficile causée dans ce pays par la guerre et la pression économique imposée et a appelé l'ONU ainsi que la communauté internationale à inviter pour arrêter la guerre et éliminer la pression sur le peuple yéménite, tout en soulignant la volonté de l'Iran de fournir des aides humanitaires et médicales au Yémen pour sa lutte contre le nouveau coronavirus. Il a également appelé au règlement de la situation au Yémen par des moyens politiques à la tenue de pourparlers entre les Yéménites et à la formation d'un gouvernement inclusif avec l'aide de tous les partis politiques. Le responsable onusien a pour sa part remercié le rôle de l'Iran pour aider à établir la paix dans la région, à supprimer la pression économique et à la reprise des pourparlers politiques. Pendant son séjour en Iran, le responsable des Nations Unies participera à des discussions et échangera des idées avec des responsables iraniens sur les moyens de mettre fin à la crise. Des militaires syriens et russes ont été pris pour cible dimanche 7 février par les roquettes des terroristes à Idlib. Le groupe terroriste Ansar al-Tawhid, affilié à Al-Qaïda, a affirmé dimanche que des militaires syriens et russes avaient été tués lors d'une frappe de ses forces contre la ville de Kafranbel dans la campagne du sud d'Idlib. La frappe aurait visé un quartier général conjoint de l'armée syrienne et des forces russes. Selon les informations du groupe terroriste, un conseiller militaire russe a été trouvé la mort et deux autres militaires russes ont été blessés. L'attaque a également coûté la vie à 7 soldats syriens de la 5e corps et 3 de la 25e division. 12 autres soldats ont été blessés selon la même source. Ansar al-Tawhid est un proche allié de Hayat Tahrir al-Sham, HTS, lié à Al-Qaïda. Le dirigeant de facto du Grand Idlib est le chef de la salle d'opération d'Al-Fatah al-Mubin. De même, les médias ont fait part du crash le 7 février d'un drone russe orlandiste alors qu'il était en mission au-dessus de la région nord-ouest du Grand Idlib. Le drone effectuait une sortie de reconnaissance au-dessus du mont Al-Zawiya dans la campagne du sud d'Idlib lorsqu'il a été pris pour cible par des terroristes Al-Fatah al-Mubin. Une photo du drone abattu a été partagée par ces derniers. Il s'agissait du 2e drone russe abattu au-dessus de la Syrie au cours des dernières 24 heures. Un jour plus tôt, un drone du même type avait été abattu par les forces kurdes au-dessus du nord de Raqqa. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok a annoncé dimanche la décision de dissoudre le gouvernement, a déclaré le Conseil des ministres dans un communiqué. Conformément aux dispositions du document constitutionnel pour la période de transition, le Premier ministre a publié dimanche une décision visant à relever les ministres et ministres d'État du gouvernement de la période de transition de leurs fonctions et à mettre fin à l'affectation des ministres par intérim, a indiqué le communiqué. Selon la décision, les ministres congédiés assureront l'intérim jusqu'à la formation du nouveau gouvernement. Plus tôt dimanche, le Conseil des partenaires de la période de transition au Soudan a accepté d'annoncer le nouveau gouvernement lundi. L'accord de paix signé par le gouvernement soudanais et les groupes armés à Djouba au Soudan du Sud le 3 octobre 2020 stipulait l'implication des groupes signataires dans les mécanismes de décision de la période de transition, y compris le Conseil souverain, le cabinet et le Conseil législatif. Et en Somalie, l'opposition juge illégitime le président en fin de mandat. L'Alliance des candidats de l'opposition appelle à la formation d'un Conseil national de transition pour conduire le pays aux prochaines élections. Le président Farmajo est jugé illégitime par l'opposition après la fin officielle de son mandat dimanche sans que ce pays d'Afrique de l'Est soit parvenu à organiser des élections. À partir du 8 février, le Conseil des candidats de l'opposition ne reconnaît plus Farmajo comme président légitime et n'acceptera aucune forme d'extension de son mandat sous la pression annoncée dimanche soir. Dans un communiqué, une alliance regroupant plusieurs dirigeants ayant des ambitions présidentielles présidentielle. De quoi déstabiliser un peu plus ce pays dont le fragile gouvernement fédéral, aux prises avec les radicaux Shebab, ne contrôle qu'une partie de son territoire, malgré le soutien de la force de l'Union africaine en Somalie à Missom. Le 17 septembre, le président Mohamed Abdoulaye Mohamed, surnommé Farmajo, avait trouvé un accord avec 5 leaders régionaux et le maire de Mogadiscio pour tenir des élections avant la fin de son mandat le 8 février. Ce pacte abandonnait la promesse du « un homme, une voix », un objectif ambitieux que la Somalie s'était initialement fixé pour tenir ses premières élections entièrement démocratiques depuis 1969, mais qui a achoppé sur de multiples désaccords politiques et surtout pour des raisons sécuritaires. Voilà, ainsi s'achève le journal. Restez à l'écoute du commentaire politique. Fin de guerre proposée par les États-Unis à Sarah Lapose, ses propres conditions. Peu importe que Biden soit sérieux ou non pour mettre fin à la guerre contre le Yémen, l'accueil réservé par les Saoudiens à une solution politique de la crise et à la reconnaissance d'Ansarallah en tant que partie de négociation est un véritable aveu d'échec de Riyad. Le dossier yéménite compte parmi les premiers dossiers à être étudiés par le nouveau président américain Joe Biden après son entrée à la Maison-Blanche. Le département d'État a parlé plus d'une fois ces dernières semaines d'une suspension de la vente d'armement à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis et d'une révision des transactions d'armement avec ces pays. Et cela en plus de l'annonce, un peu plus tôt, de l'annulation éventuelle de l'inscription du mouvement Ansarallah du Yémen sur la liste noire des organisations terroristes des États-Unis. Et pourtant, le président américain a annoncé jeudi dernier qu'il continuerait de soutenir l'Arabie saoudite dans sa défense de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du pays face à ce qu'il a qualifié des menaces proférées par les forces soutenues par l'Iran. Déclarations qui ont été chaleureusement accueillies par Riyad et qui prouvent de la meilleure manière que l'administration Biden n'entendait absolument pas stopper la vente d'armes à l'Arabie ou aux Émirats, mais changer tout simplement la raison de cette transaction ô combien juteuse. Mais qu'est-ce qu'il y a vraiment derrière ce geste humanitaire de Biden alors qu'on sait d'ailleurs qu'il ne se soucie guère de la vie des civils yéménites sans défense? Les analystes en la matière estiment que Biden cherche deux objectifs à la fois. D'une part, il veut poursuivre la vente d'armes à l'Arabie et encaisser les pétrodollars saoudiens, et de l'autre, priver Trump et les compagnies d'armement qui lui sont proches des intérêts de ses contrats d'armement, empêchant ainsi toute prise de pouvoir de Trump et son mouvement trumpisme aux futures présidentielles américaines. Il est vrai que la guerre contre le Yémen a été lancée avec le feu vert du démocrate Barack Obama. Pour quelles raisons convaincantes, alors Biden, l'adjoint de ce même Obama, devrait-il décider de la fin de la guerre aujourd'hui? À cela s'ajoutent de nouvelles bases militaires américaines qui ont été mises sur pied en Arabie saoudite. Est-ce pour des fins humanitaires que les Américains renforcent leur présence militaire sur ce territoire? L'analyste yéménite Aliel Matouri est convaincu que par cette nouvelle rhétorique, Biden ne cherche absolument pas une fin de guerre au Yémen. Le président nouvellement élu veut en fait remplir sa promesse électorale tenue sous pression de l'opinion publique américaine et internationale. Quoi qu'il en soit, les Saoudiens enlisés qui sont dans le bourbier yéménite se sont vus obligés de se mettre à la table des négociations avec Ansarallah, et cela dans les circonstances où les Yéménites sont dans une position de force. Mohamed Ali Al-Houssi, du Conseil politique suprême yéménite, est aussi sérieux que précis. Ce que dit Biden ne sont que des paroles. Nous attendons la fin du blocus et de la guerre. Nous ne négocierons que dans le cadre des intérêts du Yémen et nous n'acceptons aucune humiliation. Nous exigeons des indemnités de la part des pays agresseurs, tout comme les indemnités qu'a donné l'Irak au Koweït. Le peuple yéménite se réserve le droit à l'autodéfense. Nous fabriquons des missiles et des drones et nous sommes des plus expérimentés dans le domaine de combat.
Bonjour à toutes et à tous et merci de regarder l'émission Le Débat diffusé depuis la capitale iranienne, Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous car nous allons parler de l'OTAN et particulièrement de l'installation d'un centre spatial de l'OTAN à Toulouse en France. Ce n'est pas une surprise car l'installation de tels centres politico-militaires donc en France ou partout dans les pays de l'OTAN à une stratégie plutôt donc guerrière car les grandes puissances du secteur et en tête bien sûr les États-Unis, le plus grand contributeur de l'OTAN a toujours eu cet objectif. En effet, les alliés des États-Unis, l'OTAN bien sûr, essayent d'exploiter donc l'espace par ces centres spatiaux, excusez. Et bien sûr, ce n'est pas une surprise car il part toujours de la recherche et de l'information, mais leur objectif est bien sûr militaire. Nous allons voir plus clair à l'aide des experts des questions internationales en disant bonjour à M. Pierre Dortiguier, politologue depuis Toulouse justement. M. Dortiguier, bonjour.
Bonjour monsieur, bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité aussi.
Oui, notre autre invité est Philippe Hugon. Reporter de guerre depuis Paris, Monsieur Hugon, bonjour.
Bonjour à Pierre et à vos auditeurs également.
Nous allons entrer tout de suite dans le vif du sujet en commençant par Monsieur Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris. Nous parlons bien sûr de ce centre spatial de Toulouse qui va être installé par l'OTAN. Alors bien sûr, ce n'est pas un objectif de recherche dont suivent la France et l'OTAN, mais plutôt... dimension guerrière, qu'en pensez-vous?
Oui, alors, moi je suis absolument stupéfait de voir qu'on arrive à ouvrir un centre de l'espace sur un plan militaire, puisque pour ouvrir un centre militaire, il faut qu'on ait des ennemis. Et aujourd'hui, qui sont les ennemis? Je suis désolé de rigoler comme ça, mais je ne vois vraiment pas quels ennemis nous avons aujourd'hui. La Russie est plus un partenaire aujourd'hui, puisque notamment dans l'espace, les Français sont partis de nombreuses fois, notamment dans la station Mir. Donc faire un centre militaire capable de pouvoir envoyer des missiles ou un certain nombre d'armes dans l'espace, mais pourquoi faire? La question, elle est là. Pourquoi est-ce qu'on dépense des milliards d'euros à des outils qui ne servent à rien et qu'on laisse mourir les gens dans les hôpitaux ou dans la rue? Alors moi, je trouve ça très choquant et stupéfiant de voir qu'on puisse encore penser à des choses comme ça. Vous savez, la guerre froide, elle est finie depuis un certain nombre d'années et je ne vois pas du tout quels sont
justement,
les ennemis. Oui.
Oui.
De l'Occident.
Justement, nous allons poser la question que vous vous posez vous-même, M. Philippe Hugon, à M. Pierre Dortiguier. Est-ce que vous connaissez la réponse, M. Dortiguier? Pourquoi la France et les pays de l'OTAN dépensent des milliards d'euros pour installer des bases de recherche, de ce qu'ils disent bien sûr, mais des bases militaires?
Il y a deux réponses.
Oui.
Une qui est classique, à savoir que tout ce qui tourne autour de la recherche militaire, ou qui a un label, une étiquette militaire, est en réalité une manière, disons, d'impulser, de développer la recherche technique. Ça, c'est un point. Et deuxièmement, la question qui se pose est celle de la nécessité et de la réalité de l'OTAN, le traité d'Atlantique Nord. Et là-dessus, nous pourrions faire deux observations. La première, c'est que autant la France n'a pas d'intérêt à se lancer dans des opérations militaires, bien sûr, et avec la Russie, puisque c'est la Russie qui est l'adversaire de l'OTAN. Des relations qui, sous tous les régimes, hein, que ce soit le tsar, que ce soit les communistes ou autres, eu des relations, disons, cordiales, par rivalité avec l'Allemagne, bien sûr. Nous avons cependant, en Europe, beaucoup de pays qui sont qui maintiennent l'OTAN, qui veulent maintenir l'OTAN, je veux dire les pays baltes, les pays, la Pologne, la Roumanie, pas la Roumanie, la Hongrie, c'est-à-dire tous ces pays qui ont souffert du régime russe soviétique sont des éléments, bien sûr, de maintien d'une certaine animosité contre la Russie. Et il y a un deuxième point qui est beaucoup plus grave, c'est que le maintien de l'OTAN est en même temps, disons, un argument donné à tous les pays, la Russie en premier, mais la Chine également, à continuer leur armement. Je déplore, pour l'avoir connu, que la période de désarmement, des discussions internationales, vous savez, sur le désarmement, le nombre d'unités qu'il fallait détruire, tout ceci est abandonné, et donc nous allons continuer de part et d'autre. La Russie disant qu'elle est menacée par l'OTAN, l'OTAN disant qu'elle est menacée par la Russie, nous allons ainsi continuer à un développement militaire qui, à long terme, ne sera pas de bon augure, c'est-à-dire ne sera pas une bonne chose. Je crois même que nous pourrions, disons, en ce faisant, nous rapprochons peut-être d'un véritable conflit, et ceci, bien sûr, pour les gens de ma génération, est une chose qui fait peur, et je dois dire que je ne vois pas de la part de la Russie, d'une part, et des États-Unis de l'autre, ou de la Chine, un véritable effort de désarmement mutuel. On peut mettre ceci sur le compte des États-Unis, c'est vrai, mais je dois dire que la Russie elle-même, disons, a, de ce point de vue, une politique beaucoup plus rigide, disons, que ne l'avaient les prédécesseurs de M. Poutine, en particulier M. Gorbatchev et autres.
Oui. Philippe Hugon, est-ce que vous êtes satisfait de la réponse que la France et les pays de l'OTAN qui essayent de faire dos à la Russie et à la Chine pour faire avancer leur recherche militaire?
Oui, alors qu'on ait une recherche militaire, bien que je ne vois pas vraiment aujourd'hui l'intérêt d'une recherche militaire, chaque pays aujourd'hui qui a une certaine puissance économique possède aujourd'hui la bombe atomique, donc je vois pas trop l'intérêt de poursuivre des recherches, si ce n'est que de faire avancer la technologie militaire. Mais quel est vraiment l'intérêt d'une telle recherche aujourd'hui? Moi, je suis surtout très surpris qu'on puisse dépenser autant d'argent dans des recherches qui finalement ne servent pas à grand chose, et qu'aujourd'hui on ferait mieux de privilégier la recherche médicale, notamment avec ce qu'on voit aujourd'hui. Je rappelle que l'histoire du coronavirus, ça fait 10 ans que je dis dans mes interviews que ce problème-là allait arriver. Eh bien, je pense que on ferait mieux de mettre l'argent ailleurs, parce que je trouve que c'est non seulement ça ne sert à rien, parce que nous n'avons plus d'ennemis. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Russie est un ennemi de la France? Mais c'est pas vrai du tout. La Russie, c'est un partenaire de la France dans des tas de domaines économiques. Même la Chine aujourd'hui ne représente pas une menace pour le monde occidental. Donc je vois pas vraiment l'intérêt de dépenser autant d'argent, de dépenser autant de moyens dans une période aussi difficile, aussi critique. Moi, je pense qu'il faut au contraire que les États adopte une diplomatie qui soit beaucoup plus performante afin d'arrêter ces efforts de guerre et je dirais cette agressivité diplomatique qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, les virus mettent tout ça, tout le monde d'accord à ce niveau-là. On n'a pas besoin d'envoyer dans l'espace des missiles pour tuer des gens. Un virus est beaucoup plus efficace puisqu'il est très difficilement identifiable. Hein. Vous ne pouvez pas, avec une arme à feu, tirer sur un virus. Donc ça, c'est encore des attardés mentaux que nous avons au niveau des militaires et de certains chercheurs qui veulent à tout prix, et de certains financiers. financier, surtout qui gagne énormément d'argent avec ça. Et je pense que c'est vraiment une très mauvaise voie et c'est très dangereux pour l'avenir de la paix dans le monde.
Monsieur Hugon, malheureusement, les pays de l'OTAN ne sont pas d'accord avec vous, car ils avancent leur recherche militaire et ils font donc, ils créent des ennemis imaginaires. Ils sont très bons à ça, que ce soit donc sur la Terre ou même dans l'espace. Mais donc, quel conseil avez-vous donné aux pays de l'OTAN?
Oh ben moi, le conseil que je donnerais aux pays de l'OTAN, c'est de ne plus développer cette recherche militaire extrêmement coûteuse, mais plutôt d'utiliser tous ces chercheurs à essayer de trouver des solutions dans un domaine médical, dans le domaine alimentaire, puisque nous sommes à la veille d'une famine mondiale, même si personne n'en parle, là aussi ça fait 10 ans que je le dis, et de mesurer aujourd'hui l'énergie dépensée dans la recherche militaire, puisqu'elle ne sert aujourd'hui strictement à rien. Donc oui, je ne vois pas du tout l'intérêt de continuer dans cette voie.
Tout à fait. Pierre Dortiguier, bien sûr, la colère de M. Hugon, ça se comprend que la France dépense des milliards d'euros dans l'espace, alors que déjà la France est dans une crise sans précédent, que ce soit financière ou sanitaire. Quant à vous, M. Dortiguier, qu'en pensez-vous?
Il est certain que la France, de toute façon, est un pays pauvre de ce point de vue. Vous savez, pour parler de Toulouse, par exemple, la recherche spatiale est en fait une recherche non pas nationale, comme vous savez, comme vous devez le savoir, mais une recherche européenne. Les Anglais, les Allemands en particulier, ont eu beaucoup d'efforts. Il y a une colonie allemande très importante, l'ingénieur ici, pour pouvoir nous maintenir sur le plan justement de la création des satellites, la création aussi, la gestion également de notre construction aéronautique, qui a été soutenu par eux. Et je dois dire que c'est donc, nous ne sommes pas étonnés qu'il y ait un centre européen à Toulouse qui avait été choisi, vous savez, puisque nous sommes à 700 km de Paris, dans le sud-ouest, très éloignés des conflits potentiels qui sont toujours pour nous sur le front, j'allais dire sur le front de l'Est, mais sur l'Est du pays. Mais je dois dire que j'insiste quand même sur ce fait. Je comprends très bien la colère et l'exaspération de M. Hugon, notre ami Philippe. Mais je dois dire que quand j'observe ce qu'a été la fin de la guerre froide jusqu'à présent, il y a eu un équilibre de la terreur. Et c'est sous cet équilibre de la terreur que des injustices ont pu justement se maintenir. Il n'y aurait jamais eu c'est ce que nous connaissons au Proche-Orient, par exemple, s'il n'y avait pas l'affrontement ou réel, potentiel, si vous voulez, entre la puissance de l'Est et la puissance de l'Ouest. Elles sont à la fois rivales, mais leur rivalité réciproque est un avantage commun. Je ne sais pas si je me fais entendre là-dessus. C'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire sans demander la permission de ces puissances qui prétendent avoir un monopole atomique. Bon, entendu, je ne discute pas de la qualité des armes, mais pourquoi ne désarme-t-elle pas? Pourquoi, par exemple, il n'y a pas ce que nous connaissions encore dans les années 70? Il n'est plus question, je le répète ici, il n'est plus question de discussion sur le désarmement. Ce n'est même pas demandé par les Nations Unies, rien. C'est-à-dire que nous sommes en fait dans une guerre froide continue, voyez-vous, avec une apparence disons, d'amabilité. Mais même monsieur, je me souviens, il y a quelques années, je crois que ça fait 4 ou 5 ans, monsieur le président Poutine a expliqué comment, avec des armes, il pourrait atteindre les USA en passant par l'épaule. Enfin, imaginez que c'est un discours qu'on tient quand même au XXIe siècle. Je dois dire que ce serait la même chose de la part des Américains. Mais jusqu'à quand, je pose la question, jusqu'à quand cette course aux armements va durer et qui sert-elle? Au profit de qui? Pas bien sûr au profit des peuples, naturellement, mais au profit de gens qui veulent maintenir leur puissance par l'équilibre de la terreur. Et en particulier, ce dont souffre l'Orient aujourd'hui. Je dis tout l'Orient, que ce soit en Palestine, que ce soit en Iran, au Yémen, partout, en Syrie, ne serait pas possible. Ces souffrances n'existeraient pas s'il n'y avait pas, justement, cet équilibre de la terreur. En fait, c'est cette guerre froide continuelle qui a permis des injustices et qui les fait perdurer encore. Donc il faut avoir présent à l'esprit de dénoncer, si on peut se mettre dans l'intérêt des peuples, comprendre l'intérêt des peuples, il faudrait que les peuples eux-mêmes, ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, voyez-vous, celui qui était en dehors des deux mondes qui s'opposaient, le tiers-monde, puisse retrouver une nouvelle forme, une nouvelle puissance, si je puis dire, et non pas se mettre à l'abri des puissances qui, elles, organisent, justement, cette guerre froide. Vous voyez, je veux dire que nous avons affaire à de faux adversaires,
Monsieur D'Ortiguier,
en tout cas, qui sont unis par des expériences communes, en particulier l'expérience d'avoir empêché, bien sûr, la puissance européenne de s'épanouir pleinement, puisque notre Europe a été coupée en deux, voyez-vous, et appauvrie, justement, aussi, tout au moins à l'Est, considérablement, par les occupations, et notre mode de vie, notre pensée, voyez-vous, notre manière de faire a été viciée par ce qu'on appelle l'américanisation. Et moi, je crois qu'il y a un lien entre l'américanisme et ce que j'appellerais le soviétisme ou le post-soviétisme, voyez-vous.
Oui, Monsieur D'Ortiguier.
C'est une idée qui a été défendue souvent en Europe. Je crois que c'est celle-là qui devrait être remise en question par les jeunes générations.
Oui, juste, Monsieur D'Ortiguier, mais malheureusement, les peuples n'ont d'autre choix que de se soumettre donc à cet équilibre de terreur donc oui, créé par les pays de l'OTAN, par exemple. Mais ça dépendrait bien sûr des gouvernements, comme l'Iran, par exemple, qui a toujours su tenir tête justement à la terreur créée par les pays de l'OTAN.
Oui, en effet, je me rappelle, vous savez, je reprendrai la formule de l'imam Khomeini, ni Est ni Ouest. Il voulait dire ça au sens politique, justement. C'est-à-dire ne pas rentrer dans cette espèce de jeu infernal, voyez-vous, où finalement, comme on dit, on passe d'un diable à l'autre. Alors chacun, bien sûr, les gens, pourquoi les gens idéalisent-ils, pourquoi, par exemple, ceux que j'ai connus en Allemagne, en Europe de l'Est, que j'ai visité, et que j'ai vécu en Croatie en particulier, en Allemagne de l'Est, et puis aussi en d'autres pays, pourquoi les gens idéalisaient-ils l'Amérique? C'était contre ce qu'ils subissaient. Pourquoi les gens aux en Russie idéalisaient-ils, dans la jeunesse par exemple, il y a un idéal des États-Unis? C'est parce qu'ils veulent lutter contre les mafias locales. En réalité, ils ne voient pas qu'ils sont, si je puis dire, dans le même sac. Ce n'est pas les mêmes personnes, mais c'est des gens qui ont les mêmes intérêts. Et tant qu'il n'y aura pas, justement, une prise de conscience, en Europe, c'est très difficile à faire. Et à l'extérieur, dans les États, comme on dit, en développement, que ce soit l'Inde, que ce soit l'Iran, que ce soit des grands pays comme cela, qui ont un grand passé et donc qui ont un avenir, évidemment, absolument inévitable, je veux dire un avenir nécessaire. Je crois que c'est leur rôle, justement, et je mets la Turquie aussi dans le même sens, et les pays arabes, c'est eux qui doivent montrer, justement, une porte de sortie, briser cet équilibre de la terreur. Et là, nous-mêmes, en Europe, nous leur serons, dans les générations futures, reconnaissants.
D'accord. Monsieur Hugon, votre réaction, je vous prie.
Oui, alors moi, j'ai une réaction qui est assez tranchée à ce sujet-là. Je pense que pour tous les pays comme l'Iran, comme la Syrie, comme l'Irak, comme si ces pays-là désirent avoir une certaine force et être écoutés, eh bien, il faut que ces pays eux-mêmes développent leur propre armement et leur armement nucléaire afin de rééquilibrer la situation. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on le voit d'ailleurs très bien avec la Corée du Nord. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on laisse tranquille la Corée du Nord? Eh bien, c'est parce qu'elle a l'arme atomique. Et le monde occidental est un monde qui n'est absolument pas raisonnable et qui continue encore sur des dogmes qui datent de dizaines et dizaines d'années en arrière et qui n'ont pas évolué vers un système de paix et d'équilibre. Eh bien, si ces pays veulent perdurer dans le temps, soit ils se rangent sous la coupe d'une grande puissance internationale, soit ces pays doivent développer des armes, pas spécialement nucléaires d'ailleurs, mais ça peut être des armes biologiques, hein, avec des virus et des choses comme ça, de façon à arrêter cette ingérence qu'il y a d'une façon continuelle et permanente dans un grand nombre de pays, notamment en Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, de façon à rétablir un certain équilibre. Vous savez, le monde occidental est convaincu d'avoir raison dans tous les domaines et est convaincu d'apporter le bonheur, la joie de vivre dans, parmi ces peuples, et ce qui n'est pas du tout le cas, hein, c'est plutôt l'inverse aujourd'hui. Hein. Mais bon, ces gens cherchent à rester au pouvoir par tous les moyens d'imposer ce style de vie, mais ce style de vie ne convient pas du tout à l'Afrique ou au Proche-Orient. Donc on veut à tout prix imposer, donc on va ingérer dans ces gouvernements pour faire éventuellement des coups d'État, renverser des chefs des gouvernements. Et moi, je trouve ça absolument scandaleux qu'au XXIe siècle, on puisse encore avoir ce genre de dogme dans la tête et ce genre d'idées. Je pense d'ailleurs que ça nous coûtera extrêmement cher dans les années qui viennent. Mais je pense aujourd'hui, oui, il faut vraiment que ces pays ne comptent plus du tout sur le monde occidental, développent leur propre armement. Et dans ce cas-là, ce sera vraiment utile de développer l'armement. Pour ces pays-là, j'entends, pour avoir une grande autonomie, une grande indépendance et ne plus subir les ingérences occidentales dans leur société.
Monsieur d'Ortiguet, est-ce que vous êtes d'accord avec la solution présentée par Monsieur Hugon ?
Oui, en effet, je suis d'accord avec cette solution, avec la seule réserve que ce qu'il entend par le monde occidental aujourd'hui ne recouvre pas la géographie occidentale, mais recouvre ce qu'on appelle un gouvernement mondial, qui a son centre, qui dit avoir son centre en Occident, mais également a ses correspondants profondément, enracinés, en Asie même, je veux dire en Asie, en Russie asiatique, dans le régime communiste chinois par exemple, dans tous ces gens-là, voyez-vous, ce n'est pas l'Occident contre le monde. Le monde s'incline devant des idoles aujourd'hui, qui sont des idoles de l'informatique, des choses qui sont nécessaires, mais qui sont mal utilisées, et surtout entre les mains de financiers cosmopolites. C'est cela qu'il faut dire. Ce sont eux, les gens qui sont apatrides en réalité, qui dressent les peuples les uns contre les autres, voyez-vous, qui organisent l'immigration, par exemple, qui essaient d'étouffer même la culture, justement, la culture occidentale, comme la culture orientale, voyez-vous. Je crois que la situation est extrêmement grave et que nous ne sommes pas, pour le dire en un mot, la catastrophe qu'a représenté pour nous en Europe la Première Guerre mondiale, qui est la matrice, à mon avis, de tous les maux, eh bien, elle dure encore, voyez-vous. Nous avons détruit des nations de culture, nous avons détruit beaucoup de jeunesse, et finalement, nous avons devant nous des puissances qui sont tenues à bout de bras par ce que j'appelle ces réalités financières, voyez-vous. C'est elles qu'il faut dénoncer, voyez-vous. Elles agissent dans l'ombre, elles n'agissent pas au premier plan de la scène, elles agissent dans l'avant-scène, voyez-vous. Et je crois que la part des peuples qui sont en Occident, bien sûr, mais la part des peuples en dehors de l'Europe, qui peuvent avoir une vision objective, disons, a une importance remarquable, voyez-vous, pour cela. Nous trouvons, nous, que, évidemment, le réveil n'est pas aussi important que nous le souhaiterions.
Absolument.
Mais, disons, c'est la seule chose à faire. Aujourd'hui, je crois dire que l'état d'abaissement de l'Occident n'est pas la faute de l'Occident même, mais la faute des forces
tout qui
ont pris le pouvoir,
oui,
à mon avis, à l'occasion des deux guerres mondiales. Voilà. Et nous vivons sous la loi de ces vainqueurs, non pas de nous comme vainqueurs, mais c'est eux qui nous ont vaincus, voyez-vous, qui nous ont vaincus, asservis, avec des organisations internationales et autres, voyez-vous,
tout à fait.
Qui ne sont pas là du tout pour faire la paix, mais au contraire organiser des blocus, des choses comme ça.
D'accord.
Je dois dire qu'il faut prendre conscience que nous sommes sous un gouvernement mondial, qui se veut mondial, et donc il faut une union de tous les peuples contre ce mondialisme.
Eh bien, Pierre d'Ortiguet, politologue, merci d'avoir consacré votre temps à l'émission du débat d'aujourd'hui. Un grand merci à M. Philippe Hugon, reporter de guerre depuis Paris, d'avoir donné des précisions à cette émission. Merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Iran.
Iran, du pays des merveilles.
La province de Fars, située au sud-ouest de l'Iran, s'étend sur une superficie de 122 608 km² et est à ce titre la cinquième province la plus vaste d'Iran. En tant que l'un des plus anciens centres de la civilisation iranienne et la capitale gouvernementale la plus importante de l'Antiquité iranienne, notamment des rois achéménites et sassanides, la province abrite un grand nombre d'attractions historiques, en grande majorité situées à proximité de ses principales villes. Persépolis, Tarté Jamshid. Ancienne capitale de l'empire achéménide, Persépolis se situe dans la plaine de Marvdasht, au pied de la montagne Kouherahmat, à environ 70 km au nord-est de la ville de Shiraz. Sa construction commença en 521 avant Jésus-Christ sur ordre de Darius Ier et se poursuivit pendant plus d'un siècle. Le site de Persépolis est un vaste complexe érigé sur une terrasse monumentale. À proximité de la terrasse se trouvaient d'autres éléments, dont les habitations de la ville basse, des tombes royales, des temples et des jardins. De nombreux bas-reliefs sculptés sur les escaliers et portes des palais attestent de la diversité des peuples composant l'empire. Le portrait de Rostam, Narcher Rostam. Ce site archéologique, situé à environ 6 km de Persépolis, à Marvdasht, est appelé ainsi car les Perses pensaient que les bas-reliefs sassanides sous les tombes représentaient Rostam, héros mythique perse. Le site contient 4 tombes royales achéménides et 3 registres de bas-reliefs. L'une serait la tombe de Darius Ier, mais les 3 autres tombes, se trouvant à ses côtés, ne portent aucune inscription permettant de les identifier avec certitude. Outre les tombes, il existe 7 grands bas-reliefs taillés dans la roche de Narcher Rostam. Face à la roche se trouve un monument zoroastrien et à l'extrémité du site se trouvent 2 petits temples de feu. La ville historique d'Estahr. Tarté Tavous. À 7 km de Persépolis, le visiteur peut découvrir les restes de ce qui fut l'une des plus belles villes de Perse datant de l'époque achéménide. Conquise plusieurs fois, il n'en reste aujourd'hui que des ruines qui témoignent encore de sa splendeur passée, telles que la grande porte de pierre de la ville, des colonnes et des murs. Le barrage de Darius. Doruzan. Il y a près de 2400, les besoins agricoles d'irrigation à l'époque achéménide ont mené à la construction de ce barrage près du village de Doruzan. Il reste considéré comme un chef-d'œuvre d'ingénierie construit au meilleur endroit possible de la rivière, fournissant ainsi l'eau nécessaire aux champs. Ce barrage construit sur ordre de Darius est connu comme étant le plus ancien barrage de terre du Moyen-Orient. Le village est la cascade de Dashtak. Dashtak est un vieux village de Marvdasht où ont été retrouvés des objets remontant à l'époque achéménide. La beauté de la nature environnante et la cascade située dans cette région historique à 65 km au nord-ouest de Marvdasht et à proximité d'une forêt de noyers valent également le détour. Le paradis perdu, Beheshte Gomshode. Situé à Marvdasht, dans la région de Kamfirouz, à 120 km du nord-ouest de Shiraz, cette vallée verdoyante, aux paysages spectaculaires et aux nombreuses cascades, fait partie des zones protégées de la province de Fars. Fayyazabad. Le château d'Ardeshir Baba Khan se trouve dans cette ville de Firuzabad. Ce château, qui fut également un temple zoroastrien, a été construit sur ordre d'Ardeshir Baba Khan, fondateur de la dynastie sassanide. Il est l'un des monuments les plus imposants de l'architecture sassanide. Il comprend de nombreuses salles et le stuc décoratif du haut de ses murs est toujours intact, 1800 après sa construction. La ville historique de Gur. Construite tout en rond, cette ville datant de l'époque achéménide est située à proximité de Firuzabad, est un endroit chargé d'histoire antique. Les historiens rapportent qu'excédé par la résistance de ses habitants face à son armée, Alexandre aurait ordonné qu'on l'engloutisse sous l'eau grâce à la construction d'un barrage. Après avoir fondé la dynastie sassanide, Ardeshir Baba Khan restaura la ville et la choisit comme capitale. Le bas-relief de la victoire, Narche Piruzi. Datant de l'époque sassanide, il figure la victoire d'Ardeshir sur le dernier roi Arsacide. C'est le plus grand bas-relief d'Iran. Tangi Haigrer, située à 35 km du sud-ouest de Firuzabad, cette région surnommée « Grand Canyon de l'Iran » en raison de la grande profondeur de sa vallée, est dotée d'une végétation et d'une faune endémique unique en leur genre. La zone protégée Shahid, elle constitue l'habitat d'espèces rares, d'oiseaux migrateurs et d'animaux sauvages, et est un lieu de randonnée privilégié de la province. Pasargad. Le site archéologique de Pasargad est la principale attraction de la région. Il comprend de nombreux monuments historiques, dont le mausolée de Cyrus, la forteresse Talé-Tarte, la prison de Salomon, ainsi que les ruines de deux palais royaux, l'un datant probablement du règne de Darius et l'autre de celui de Cyrus. Le mausolée de Cyrus le Grand. Autrefois situé au milieu des jardins royaux, cette tombe qui constituait le cœur de Pasargad fut construite vers 530-540 avant Jésus-Christ. Alors qu'il visitait la tombe de Cyrus, Alexandre ordonna à l'un de ses soldats d'entrer dans le monument. Ce dernier y trouva une caisse en or contenant des objets royaux et guerriers ayant appartenu à Cyrus, ainsi que de nombreux bijoux et pierres précieuses. Talé-Tarte, construite en nom d'une colline, la forteresse de Darius, également connue sous le nom de « Trône de la mer de Salomon », est située à environ 2 km au nord-est du mausolée de Cyrus. Après son couronnement, Darius transforma ce bâtiment, auparavant lieu de réception, en une forteresse d'une superficie d'environ 2 hectares. La tour de pierre, Borje Sangi, ou prison de Salomon. Construite à l'époque des Achéménides, elle est le monument de Pasargad qui constitue l'un des meilleurs témoignages de la maîtrise architecturale et artistique des ingénieurs et architectes de l'époque. Diverses opinions existent concernant l'usage de ce monument. Selon certains, il s'agirait du mausolée de Kambujiye, fils et successeur de Cyrus. D'autres soutiennent que cette tour abritait un temple de feu zoroastrien. D'autres encore estiment que l'endroit servait de centre d'archivage des documents administratifs achéménides d'importance. Le plan architectural du monument semble cependant confirmer l'hypothèse d'un lieu à usage rituel, le mystère n'ayant pas été encore élucidé par les archéologues. Et enfin, le complexe royal de Pasargad. Situé au centre du site de Pasargad, ce complexe est constitué de plusieurs châteaux, l'un ayant été habité par Cyrus un autre, nommé Darvazé, possédant un bas-relief où figure un homme possédant des ailes, et le dernier, appelé Bareham, était destiné à l'accueil des invités et autorités des autres nations par Cyrus. Voilà, ainsi s'achève cette émission. Merci de votre écoute et à la prochaine fois.
Thank you.